There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
C'est parti!
Bonjour et bienvenue dans ce podcast, Le Plein de Sens.
Je suis Anne-Sophie Supiot.
Je m'appelle Grégory Vacher.
Vous êtes en quête de sens? Et ben ça tombe bien parce que nous aussi.
Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah nous aussi.
Comment tu sais tout ça toi?
Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous.
Quelle bonne idée.
Oui.
Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui?
Rencontre avec Girl Go Green, Camille Chaudron.
Merci Francine.
Alors, on y va.
Coucou.
Et bonjour. Alors, ça va vous?
Bah ça va bien et toi?
Bah ça va super.
Enfin je vais te dire, bon, on est content pour la nature, la pluie est de retour, mais ça y est, on est dans l'automne. Hein.
C'est vrai, on est de retour dans la caravane, on a de la buée sur les fenêtres, j'ai envie de dire que...
J'ai envie de tout fout le camp.
Ouais, voilà. Maintenant, bah, tout fout le bon sens plutôt. Tout fout le bon sens, puisque c'est au mois d'octobre, je sais pas pour vous, mais en tout cas, nous, dans la région sud-ouest, près de Libourne, Bordeaux, on a eu vraiment un temps haussien. Donc, c'était pas totalement normal, quoi. Et là, ouais, ça y est, on le voit sur la caravane avec cette pluie qui perle sur les vitres sales. Les arbres boivent, les animaux boivent, tout le monde boit. Nous, on a même bu un coup à midi.
C'est vraiment...
C'est un peu hors sujet, mais bon, il y avait de la caipirinha dans le frigo. Qu'est-ce que les gens fassent?
Ah ben, faut pas gâcher, ouais. Hein.
Alors, vous inquiétez pas, on n'est pas complètement bourré, on a bu que 16 verres. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec votre pharmacien. Non, c'est pas vrai, on a bu. Hein. On s'est dit avec Anso, oh, mais c'est sympa la caipirinha, on aime bien le goût, donc on s'est bu une gorgée chacun.
Ouais. Moi, j'en ai bu trois.
Non, c'est resté light, mais c'est vrai que on s'est dit, ça se fait pas quand on enregistre un podcast.
Non.
Et pourtant, regarde-nous, nous sommes tous les deux nus.
Et voilà, et ça nous va bien finalement d'être dans ce simple appareil.
Alors, on est hyper content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, bon, déjà, on est toujours content de vous retrouver, vous l'aurez remarqué, mais ça, c'est vrai, on est content de se retrouver déjà tous les deux, Anso et moi, pour enregistrer.
Tout nu.
Tout nu. Mais en plus, quand on interviewe des personnes qu'on aime bien et qu'on peut vous faire partager ce moment, c'est toujours cool. Et aujourd'hui, on va avoir Camille Girl Go Green avec nous au téléphone. Donc, c'est son pseudo sur Instagram et sur TikTok, Camille Girl Go Green, c'est une créatrice de contenu, on va dire intelligent, puisqu'elle parle beaucoup de ce qu'elle fait elle dans la vie, à savoir qu'elle vit dans une ferme en permaculture. Elle s'est formée d'ailleurs en tant qu'agricultrice, on lui demandera où elle en est, mais je pense qu'elle a validé sa formation.
Ouais, elle vit dans un écolieu.
Ouais, elle est très engagée pour l'environnement, pour les animaux, et puis elle va nous parler aussi de la grève de la faim qu'elle a entamée il y a quelques temps. Qu'elle a terminé d'ailleurs depuis. Elle va nous parler de ce projet écocide qui est plus qu'un projet écocide puisqu'il est totalement en cours en ce moment. En tout cas, au moment où on enregistre ce podcast, il n'est pas arrêté et je n'ai pas l'impression que ce soit en bonne voie pour que ce soit le cas.
C'est l'autoroute A69 dont il s'agit qui relie Toulouse à Castres. Et donc, il y avait plusieurs militants qui ont fait des grèves de la faim. Il y a eu une petite trêve quand même du gouvernement qui a dit bon, bah, on arrête et puis on suspend les travaux jusqu'à discussion. Et puis apparemment, ça a repris. Bon, de toute façon, elle va nous en parler. Puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel moment on peut mettre sa vie en danger pour une cause qui ne nous est pas spécialement personnelle. Enfin, qu'est-ce qui se passe pour prendre une décision si extrême? Et puis surtout, comment Camille elle a vécu ça, parce que je sais qu'elle a reçu des torrents de haine aussi sur les réseaux sociaux avec... Enfin, moi, je suis toujours surprise par ces gens qui disent oh, « bah, ok, crève bah, !» Ok. Enfin...
Ouais, bah, c'est compliqué. Forcément, on est dans une époque où on a... Enfin, en tout cas, nous, on a grandi avec ça, quoi, avec... Avec Internet, enfin, on a grandi, même nous à l'époque, il y avait les dinosaures, hein, avec Anso quand on est né. Mais ouais, l'essor d'Internet, je sais pas, quand c'est arrivé, on avait quoi, entre 12 et 15 ans, quoi, un truc comme ça. Ah, et
mais
puis...
pas moi, hein, moi j'avais 18 ans quand Internet est arrivé. Hein.
Ah ouais?
Bah ouais, franchement, ouais, j'avais 17-18 ans, j'avais pas de téléphone.
Bon, en tout cas, ça s'est fait progressivement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même dans la génération de gens qui ont grandi avec ça, quoi. C'est-à-dire, on a évolué en même temps qu'Internet, et puis on s'est retrouvé avec les réseaux sociaux, etc. Et puis ce déversement de haine qui est arrivé sous couvert d'anonymat, quoi. C'est ce qui fait que Twitter, qui est devenu X, c'est un déferlement de haine. Enfin, ça fait très longtemps que j'y suis pas allé, mais c'était que ça. Et que tu peux te faire très régulièrement insulter sur Instagram. Je sais pas si toi, d'ailleurs, en tant que
femme,
non, j'ai influenceuse.
Et,
non, mais, et en tant que femme, non, mais sérieux, en tant que fille qui a en tout cas Internet depuis longtemps, t'as déjà eu affaire à des choses comme ça via Internet?
Non, en vrai, j'ai toujours eu. Enfin, j'ai de la chance. Et en même temps, c'est peut-être parce que j'ai jamais pris position forte. Mais j'ai jamais eu vraiment. Enfin, si, parfois, quand je partage, par exemple, des projets écologiques, je peux avoir des réponses un peu sèches ou non, mais t'as rien compris. Enfin, tu vois, des désaccords plutôt. Mmh. Mais pas des torrents de haine, quoi. Ou alors, moi, j'ai reçu beaucoup de zizi.
Ouais. Ouais,
ce qui n'était pas mûr. Hein.
Ouais, c'est torrent de zizi, c'est pas non plus super. Ma sœur aussi, elle m'en parlait il y a pas longtemps. Elle est artiste plasticienne et elle fait des trucs des fois avec son corps, genre elle danse, des trucs comme ça. Et donc son corps des fois lui sert de support. Comme, enfin, je sais pas si j'explique bien, mais en gros quand tu danses, de toute façon ton corps est ton outil. Et quand elle se met dans certaines situations qu'elle danse ou quoi, elle peut recevoir des messages de mecs sur Instagram qui disent coucou, est-ce que tu baisses? Voilà.
Ouais. C'est sûr que la danse est une invitation à ça.
C'est ça. Soit qu'elle répond bien sûr, rendez-vous s'il
telle
vous plaît,
heure chez...
à la boulangerie chez Jean-Luc, car ils font des pains aux raisins succulents. Et une fois que nous l'aurons englouti avec gourmandise, nous
pourrons faire notre petite affaire.
C'est ça. Dans les toilettes, tant que Jean-Luc est d'accord, évidemment, car c'est un boulanger parfois un peu susceptible. Non mais c'est terrible en réalité, on rigole de ça, mais c'est terrible. Moi je me fais attaquer, alors pas avec des photos de zizi, mais ça m'arrive aussi de temps en temps quand je poste des trucs, et notamment, je sais pas si tu te souviens, c'était il y a pas longtemps en même temps, on a publié une photo de nous deux pour la rentrée, en disant « Ah c'est la rentrée du plein de sens
oui. »,
et en fait on est dans mon salon,
oui.
Et il y a quelqu'un qui a dit « Ah la clim derrière », parce qu'il y a une clim accrochée au mur, « Ah ouais, hyper écolo la clim derrière ». Voilà, il y a des trucs comme ça, quoi. Des gens qui veulent tout le temps gueuler, quoi, et te décrédibiliser. Et voilà. Et pour répondre à cette personne, même si elle n'écoute pas du tout le podcast, j'en suis certain, mais par exemple, cette clim, et je ne me suis pas justifié, j'ai même pas répondu à ce mec, mais en gros, c'est quand on a acheté la maison, il y avait des clims. Les clims qui sont réversibles, donc en gros, elles servent de chauffage aussi l'hiver. Elles envoient de l'air chaud. Et en fait, je me suis posé la question quand j'ai acheté cette maison, parce que je me suis dit, putain, la clim, c'est quand même pas cool. Mais en réalité, est-ce qu'il vaut mieux démonter un truc qui est déjà là et créer de la pollution aussi, enfin, aller balancer ça en déchetterie et tu sais pas où ça finit?
Savoir que, ouais, c'est ça, ce sera pas recyclé spécialement.
Ou juste te dire, ok, c'est là, et à moi de pas l'utiliser bêtement, quoi.
Ouais.
Donc, je sais que pour ma consommation de chauffage, par exemple, l'hiver, je consomme moins d'électricité avec ces trucs-là que les systèmes qui étaient au mur. Qui étaient des grippins.
Mais sache en tout cas que je suis fière de toi que tu n'aies pas répondu. Parce que je trouve que c'est inutile, c'est des combats qui sont énergivores pour pas grand chose. Et que il y a quelques temps, tu l'aurais fait, tu aurais répondu quelque chose du type pavé.
Ah oui, mais je l'ai fait très souvent. Très souvent, je me suis énervé. J'ai répondu des fois avec de la condescendance, des fois avec de l'énervement. Des fois, j'essayais de faire le genre, le mec pas du tout énervé, tu vois. Genre, ok, tu peux dire ce que tu veux. Et puis à l'intérieur, j'étais en train de bouillir.
Ouais.
Mais la réalité.
C'est une belle punchline. Ok, tu peux dire ce que tu veux. Utilisez-le vous aussi chez vous. Vous allez moucher les gens.
Ah oui, à l'époque, j'hésitais pas.
Bon, si on a Camille quand même.
Oui, parce que c'est vrai qu'elle aussi, elle doit avoir affaire à des choses comme ça et on va pouvoir en parler avec elle. Le temps qu'elle atterrisse sur l'ordinateur, qu'on fasse une petite manip. Hop, on appuie sur des boutons. Voilà.
Pardon, c'est pas les bonnes manips. Hein.
Et voilà, la manip est faite et elle est avec nous. Bonjour Camille.
Salut Greg, salut Anso.
Coucou.
Ça fait trop plaisir de te retrouver.
Oui, ça fait trop plaisir de vous retrouver aussi.
C'est vrai qu'on t'a connue, bon, t'étais comme ça, haute comme trois pommes, puis regarde ce petit bout de femme que t'es devenue, quoi.
Ouais, on grandit, le temps passe, c'est ça. Hein. Et on t'a connue quand on faisait de la radio, nous, on avait un emploi à l'époque, on était dans des beaux studios, éclairés, sur une grande avenue.
Avec des belles connexions.
Ouais. On pouvait...
Oui, mais moi, je suis sûre que c'est pour le meilleur, là, ce qui s'est passé. Moi, j'adore pouvoir enregistrer dans une caravane, ça me fait trop kiffer.
Bah, on y est bien, en tout cas. Hein. Ouais. On a un peu froid et un peu de pluie, on le disait, parce qu'on aime bien se plaindre. Hein. On est français, c'est normal. Mais au fond, on y est plutôt bien. Bon, et toi, comment tu vas, alors? Parce qu'on parlait de grève de la faim. Est-ce qu'elle est terminée pour toi, là? T'as terminé ta grève de la faim?
J'ai terminé ma grève de la faim, en effet, le même jour que Thomas Braille et les deux autres grévistes de la soif, donc Thomas, Selic et Reva, dans le cadre de la dénonciation du projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Et en fait, c'est un mouvement très spontané qui a émergé, un peu un mouvement de désespoir, tu vois, de la part des personnes qui, sur le terrain, essayent de relayer la parole de l'opinion publique, des scientifiques, des experts qui veulent s'opposer à ce projet, et qui ne sont pas du tout entendus par les élus ou le gouvernement. Et du coup, de désespoir, il y a plusieurs personnes qui se sont mis en grève de la faim pour essayer de créer un dernier électrochoc. Et ça, on n'a pas créé sur les élus et sur le gouvernement. Par contre, on a créé beaucoup dans l'opinion publique et chez moi. Mmh. Et du coup, j'ai décidé aussi de rejoindre ce mouvement. Du coup, c'est Thomas qui a cessé de manger le plus longtemps, puisque c'était lui qui a été le premier à se mettre en grève de la faim avant d'être rejoint par d'autres personnes. Je crois qu'il a fait plus de 40 jours de grève de la faim. Moi, j'ai fait plus de 2 semaines. Mais voilà, donc du coup, ça, cet épisode-là, il est fini. Du coup, je suis vraiment très contente de pouvoir retrouver de l'énergie, parce que vraiment, c'est à ça que ça sert quand on mange.
Hein. Ouais.
Ça donne plein d'énergie.
Ouais, parce que moi, je t'avais eu au téléphone, Camille, alors que tu étais toujours en pleine grève de la faim. Et j'avoue que...
C'était pas très malin de ta part d'insister. Allez, Camille, on fait un podcast ou pas, là?
Putain. Ouais, puis après, on fait une bouffe. Mais t'as rien compris à ça, en fait. Non, non, mais en fait, ça m'a beaucoup inquiété. Enfin, ça m'a beaucoup touchée, parce qu'on te sentait rien qu'à la voix plutôt faible. Et du coup, je me posais la question de savoir comment toi... T'es venue l'idée justement de rejoindre ce mouvement. Comment on en arrive à un activisme si extrême et de se dire bah, je vais mettre ma vie, remettre ma vie en question pour un combat public?
Bah, en fait, il y a plusieurs choses qui sont rentrées en jeu. La première, c'est que moi, j'ai été très touchée par la détermination de Thomas Braille et des autres grévistes de la faim. En fait, c'est d'abord un truc humain qui m'a touchée, tu vois. Parce que des projets contre le vivant, des projets d'autoroutes, c'est pas le seul qui est en France actuellement. Il y a plein d'autoroutes qui vont être construites et du coup, il y a plein de collectifs qui luttent pour s'y opposer. Et des projets de destruction du vivant en France, il y en a plein aussi. Et parfois même plus grave que celui-ci. Donc vraiment, pour moi, il y avait quelque chose de waouh, quand je vois cette détermination-là, ça ne me laisse pas insensible. Et quand je vois des personnes qui sont prêtes à mettre leur vie en jeu, ben, ça me renvoie moi-même à mes propres, à mon propre alignement avec mes convictions et mes valeurs. Et qu'est-ce que je fais par rapport à ça, tu vois? Et en même temps, il y avait aussi le fait que, ben, concrètement, je me suis dit, j'ai une communauté assez large. J'ai une forme de responsabilité à relayer ces luttes. En tout cas, c'est toute la raison d'être de mon compte Instagram Girl Go Green, tu vois. Et en fait, je me suis dit, si je continue simplement de relayer des informations, ça va juste se perdre dans un flot d'informations. Or là, il y a une urgence vitale pour certaines personnes. Si je me mouille, ça aura peut-être un impact plus grand que si je fais simplement du relais d'informations. Et c'est pour ça que j'ai décidé juste de me mouiller en me disant, bah, je veux montrer que concrètement, c'est quoi de l'intérieur faire ça. Parce que quand tu reçois juste des informations, il y a 14 personnes qui se sont mises en grève de la faim, tu comprends pas forcément les implications que ça a sur les humains, les humaines qui font cette démarche-là, tu vois. Et moi, comme je suis habituée à partager avec ma communauté bah, ce qui se passe, bah, là, concrètement, j'ai vraiment montré de l'intérieur ce que c'était. Et franchement, c'est pas jojo, quoi, tu vois, c'est vraiment hyper ardos. Et il y avait plein de personnes qui me répondaient, mais j'aurais pas pensé que ça pouvait avoir ces impacts-là, que ce soit sur le corps, sur ta vie sociale, sentimentale, etc., etc. Et en fait, du coup, je sais que ça a déclenché des prises de conscience. Et ce que moi, ça m'avait fait en miroir en me disant, mais moi, mais qu'est-ce que je fais pour ça? Ça l'a fait à d'autres personnes qui ont suivi moi mon cheminement, tu vois, et qui m'ont dit, je me suis inscrite comme bénévole chez Extinction Rébellion, je me suis inscrite comme bénévole chez Dernières Rénovations. Et je me dis, mais franchement, même si c'est que de ces 10 personnes qui ont fait ça, mais ça valait déjà vachement. Et après, au-delà de ça, je sais que ça a contribué à amener un éclairage médiatique, tu vois, sur cette question-là. Et voilà, et en fait, moi, mon job, il était à cet endroit-là, et je suis hyper heureuse d'avoir pu être en soutien, en fait, de cette lutte, parce que je pense qu'au-delà, encore une fois, de ce projet-ci, en fait, ça jette un... Comment dire, ça jette un peu comme une jurisprudence sur tous les prochains projets, parce que là, le gouvernement est en train de prendre conscience de la détermination des personnes militantes pour protéger l'ensemble du vivant et lutter contre les effets du dérèglement climatique et de la destruction de la biodiversité. Et en fait, pour moi, on est vraiment en train de passer, de passer un message qui est très fort et d'être un peu sur un basculement, un peu à l'image de Sainte-Soline et des mégabassines, tu vois, comme... Aujourd'hui, on voit que ça a tellement été un esclandre ce qui s'est passé à Sainte-Soline, que du coup, maintenant, tout le monde est hyper frileux sur le fait des nouveaux projets de méga-bassines. Tout le monde y regarde à deux fois et personne ne veut un Sainte-Soline 2. Et en fait, là, j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer, c'est de nouveau ça. Tu vois, c'est-à-dire que là, sur ce projet-là, il y a plein d'enjeux qui sont en cours et il est loin d'être résolu. Et je ne sais même pas s'il sera résolu, honnêtement. Mais par contre, tout le monde est en train... de se faire dessus concrètement, désolé l'expression, mais pour tous les prochains projets autoroutiers ou ceux qui sont actuellement en prévision. Et il y a même Clément Beaune qui a été en dessous de tout, hein, on va pas se mentir, sur ce projet, qui dit quand même qu'ils vont réviser tous les autres projets autoroutiers actuellement en France. Donc voilà, donc il y a vraiment deux échéances pour moi. Il y a celle de ce projet-ci et puis il y a celles qui sont beaucoup plus moyen long terme. Pour montrer qu'en fait, juste ces projets-là, aujourd'hui, doivent plus exister, mais plus aucun, en fait. Ce n'est pas comme ça qu'on va désenclaver les territoires. Ce qu'il faut, c'est investir dans le rail, dans des moyens de locomotion qui sont plus doux. Et voilà, et c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est des vrais choix politiques qui sont faits. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la société civile, elle se pose vraiment en acteur décisionnaire et elle demande à être écoutée, quoi.
Ouais, et puis c'est vrai que
c'est un peu long.
Non, mais c'est bien que tu parles de ça parce que c'est vrai qu'on pense, on voit quand il y a une action en cours, on voit le projet actuel, on voit ce qui est en train de se jouer, on voit pourquoi les gens se battent et quelque part du coup si le projet est quand même mené à bien, on peut être déçu, mais parce qu'on n'a pas forcément le réflexe de penser à ce que tu dis, c'est-à-dire à l'impact aussi qu'il peut y avoir derrière, quoi, au fait que ça puisse se résonner sur d'autres projets, que d'autres justement porteurs de projets de ce genre-là, de projets qui ne devraient plus avoir leur place aujourd'hui dans l'époque dans laquelle on vit, puissent se dire effectivement, bon, peut-être c'est de la merde, peut-être on va penser à autre chose ou on va se pencher sur un autre truc.
Ce projet, moi, sans ça, hein, sans vous, il est aussi fort possible que j'en ai jamais entendu parler.
C'est sûr, on en
aurait
pas entendu parler.
Et que cette autoroute, elle débarque dans notre vie en se disant, tiens, il y a un Toulouse-Castres à faire en 15 minutes, ok, mais en fait, j'en aurais jamais entendu parler, quoi.
Mais carrément, et pareil, enfin, honnêtement, je te dis, en fait, des luttes locales, il y en a des centaines, il y en a des milliers, en fait. Et c'est difficile pour les collectifs qui les portent et qui résistent sur le terrain de les faire émerger. Et en fait, c'est ça qui est dramatique, c'est que très souvent, on se retrouve dans un rapport de force où les collectifs sont trop petits, se font pas assez entendre. Et face à ça, tu as des logiques financières et politiques qui font qu'elles écrasent juste les revendications. Et là, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que ça peut monter au national, ça peut faire du bruit, et c'est dramatique qu'on en arrive à ce qu'il y ait des personnes qui mettent leur vie en jeu pour qu'on atteigne ce résultat-là. Mais moi, mon espoir, c'est que, en fait, ça puisse avoir des répercussions positives sur tous ces projets.
En tout cas, l'équipe est bonne, j'ai envie de dire, entre les gens qui sont sur le terrain et qui peut-être prennent des initiatives et des gens qui ont un peu plus de visibilité comme toi. Je pense aussi à Vincent Verza, je crois, de Partager, c'est sympa.
Exactement.
Qui est souvent aussi là pour filmer et puis pour partager sur sa chaîne YouTube, sur son compte Instagram, partout là où il est, ce qu'il défend. Et ça donne vraiment énormément de visibilité à des manifestations qu'on ne verrait pas, quoi, des événements dont on n'entendrait jamais parler si on n'habitait pas juste à côté. Donc pour ça, c'est super important.
Exactement.
On en parlait au début avec Anso. Est-ce que toi, justement, de porter ce genre de message aujourd'hui, de le faire via Instagram, c'est quelque chose que tu vis quand même relativement bien, ou est-ce que tu es quand même harcelé, parce qu'on sait que ce genre d'engagement crée aussi de la haine en face?
Ouais, puis
comment
on a
ça
vu,
se passe?
Tu as partagé des commentaires que tu as reçus, moi, qui m'ont choqué. Non,
moi, j'ai
genre...
pas vu ça, mais oui, c'est
ah non, mais franchement, c'est ni plus ni moins que crève, quoi. C'était vraiment horrible.
Ouais, c'était vraiment de l'incitation au suicide, des insultes, genre des menaces, ouais, enfin, j'ai fait une sélection pour juste donner le ton, mais des trucs comme ça, j'en ai eu des centaines, en fait. Et en effet, en fait, je pense qu'il y a un double effet, déjà, que quand tu es une femme sur les réseaux sociaux, enfin, vraiment, on va se le dire, c'est dramatique. Voilà, c'est comme si t'as pas le droit à la parole, hein. Genre, j'avais régulièrement aussi des cuisines, hein, en commentaire.
Ah, genre, va à la cuisine.
Retourne dans la cuisine, voilà. Donc, je te passe même pas toute l'ambiance sexiste et misogyne des réseaux, mais en plus de ça, quand t'amènes un discours un peu engagé, situé politiquement et militant, mais là, c'est la double peine, en fait. Mmh. Donc, vraiment, tu t'en prends plein la tête. Et aujourd'hui, avec les algorithmes, vraiment, ça, j'ai l'impression que ça favorise cette espèce de culture du clash et de la tension, en fait. Du coup, c'est très désagréable à recevoir, surtout quand en plus t'es pas forcément armé psychologiquement, physiquement pour encaisser ce genre de truc, tu vois. Donc du coup voilà. Et encore, moi je trouve que je suis épargnée comparée au cyberharcèlement que certaines personnes peuvent vivre. Donc il y a un vrai sujet là à cet endroit-là qui est absolument pas traité par le politique d'ailleurs. Enfin, il y a quelques lois ou personnes qui essayent de se démener pour faire passer des lois à l'Assemblée pour justement qu'on adresse le sujet du cyberharcèlement et qu'on puisse le border et le limiter. Et en fait, personne n'y capte rien et personne n'y comprend rien. Donc en fait, bon, voilà, à tous les niveaux, c'est vraiment problématique. Et du coup, ouais, quand tu essayes de porter ce genre de discours, vraiment, faut s'attendre à prendre des vagues de haine. Vraiment. Ouais. Et même pas forcément que des haters, tu vois, ou des trolls. Ça peut être aussi des personnes qui, dans ton camp, te critiquent, tu vois, en pensant que ta stratégie, elle est pas bonne. Donc, voilà. Mais bon, au bout d'un moment, j'essaye de prendre de la hauteur. Quoi.
Et comment tu fais? Tu réagis comment, toi? Est-ce que tu réponds? Est-ce que c'est juste parce que, justement, via les vidéos que tu postes, où tu affiches clairement les gens qui t'ont dit des trucs vraiment pas cool? Est-ce que c'est ça ta façon de répondre, ou est-ce que tu leur réponds un par un en disant « Ah, c'est celui qui est ?»
Franchement, j'ai envie de te dire, ça dépend un peu de ma motivation du jour et de mon niveau d'énervement quand je lis, tu vois. Genre, si j'ai fait un bon yoga, une bonne méditation avant, peut-être que ça va plus me couler dessus et je fais que supprimer les messages où il n'y a même pas de proposition de discussion. En fait, c'est juste de la haine.
Ouais.
Et puis parfois, genre, ça me touche. Pour une raison X ou Y, je sais pas, j'ai pas passé une bonne journée et je lis un truc et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Ouais.
Et du coup, je me mets à répondre et en fait, je rentre dans un espèce de discussion stérile et je me rends bien compte que ça sert à rien. Donc là, j'essaye vraiment, après ces apprentissages, de me mettre dans un mode de ferme-toi et blanc de toi. Mais ce qui est horrible, parce que d'une certaine manière, je suis pas allée sur les réseaux sociaux pour me prendre de la haine et pour me blinder. Moi, je suis allée pour partager, pour enclencher du dialogue avec les gens. Et du coup, si tu es dans une posture de renfermement et de protection, bah, il y a plein de personnes qui sont peut-être pas malveillantes, qui cherchent juste à avoir une conversation avec toi. Et ces personnes-là, bah, malheureusement, elles vont se prendre le mur. Parce que c'est un mur de protection que je mets avec tout le monde, tu vois, et qu'au bout d'un moment, tu fais même plus du cas par cas.
Ouais, c'est ça. Ah, donc, oui. Puis c'est sous prétexte que toi, tu as choisi d'être plus ou moins exposé, mais en tout cas, tu as choisi d'être exposé. Sous ce prétexte-là, les gens se permettent vraiment
oui, comme, ouais. comme à l'époque, quand on disait des stars qui se faisaient harceler, tu vois, des stars de cinéma bien avant les réseaux sociaux, quand ils se faisaient emmerder au cinéma ou quoi, enfin, au restaurant, qu'il y avait des paparazzi partout, qui pétaient les plombs. Et il y avait souvent des gens qui défendait un peu le paparazzi ou en tout cas qui était anti-star, qui disait mais attends, il l'a choisi. S'il a décidé d'être acteur, ça va avec, ça fait partie du package.
Alors qu'il a choisi de tourner dans des films.
À la base, voilà, tu choisis un métier, tu choisis une passion. Et moi, ce sujet m'intéresse parce que, en tout cas, ton bien-être à ce niveau-là me préoccupe aussi parce que par rapport au peu d'exposition qu'on a eu nous, quand on faisait de la radio, je me rends compte que le peu de fois dans ma vie où j'ai été exposé à ça, à des gens qui m'envoyaient de la haine, ça a pu me détruire. Et je sais que ça dépend de la sensibilité de chacun. Ça dépend aussi, tu le disais, de ton humeur, de ta capacité à prendre de la hauteur, à ce que ça te coule dessus ce jour-là. Mais moi, j'ai vraiment eu des moments où ça m'a pourri la vie au plus haut point. Et je me demande aujourd'hui comment toi et les autres personnes qui êtes si présents sur les réseaux arrivez à vous préserver quand même, parce que c'est hyper important de mettre un bouclier, parce que je pense que on est tous humains, donc on a forcément des moments où on est un peu plus faible et où on est plus perméable à toute cette haine, et ça vaut pas le coup, quoi. Donc je me dis, moi, j'avoue que ma seule solution, moi, c'est de désinstaller Instagram, et ce qui serait impossible pour toi, parce que comment tu bosses après si t'as plus ton outil de travail. Mais moi, c'est ce qui nous freine aussi aujourd'hui. Je sais. Non, mais tu vois, c'est ce qui nous freine aujourd'hui. J'adorerais faire des trucs sur Instagram, mais aujourd'hui, je suis désolé, j'en ai peut-être un peu, je sais pas si j'en ai honte, mais je n'arrive pas à travailler avec cet outil parce que justement, ce que je reçois en échange m'impacte trop. Donc, en gros, parce que tout ça, tu l'as compris, c'était pour parler de moi, j'adore parler de moi.
Non, mais je suis tellement d'accord. En fait, je résonne à fond avec ce que tu es en train de dire. Enfin, vraiment, et j'ai pas la solution. Hein, ouais. Et je pense que personne ne l'a.
T'as pas de parachute ou d'airbag ou de trucs comme ça pour quand vraiment c'est trop compliqué, quoi.
Ben, en fait, il y a un truc que j'ai commencé à faire et en discutant avec d'autres personnes suite à une discussion que j'ai eue avec d'autres personnes qui subissaient un peu ça aussi, c'est que en fait au bout d'un moment j'ai recruté quelqu'un pour dans des moments où je sentais que ça m'affectait trop et que c'était en vague et tout, genre pour traiter les commentaires à ma place, en fait, moi que j'ai pas à les lire et qu'il y ait quelqu'un qui lise, supprime ou réponde quand c'est pertinent, tu vois, genre vraiment focus commentaire de haine, tu vois, et que moi je sois pas obligée de voir ça. Mais pour moi, c'est vraiment une rustine sur une plaie énorme et un problème qui est bien plus large, en fait. Et malgré, tu vois, le soutien, parce que on se parle des commentaires de haine, c'était une minorité par rapport à tous les commentaires de soutien. Et tu vois, on a des biais cognitifs qui font qu'on est humain. Tu vois, genre, j'essaie d'être un peu indulgente avec moi-même, qui font qu'en fait, le biais cognitif fait que tu vas beaucoup plus mettre ta focale sur le commentaire méchant que tu as reçu par rapport aux 20 commentaires sympas que tu as reçus. Et du coup, ton biais cognitif va t'amener à vachement plus t'arrêter là-dessus, alors qu'en fait, c'est pas vraiment rationnel, tu vois. Et du coup, j'essaie de me dire, bon, ben voilà, je sais que c'est un mécanisme dans mon cerveau, j'essaie de prendre du recul. Il y a cette espèce de mantra là qui tombe pas mal d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui dit avant de me préoccuper de ce que dit quelqu'un, demande-toi pourquoi t'en as quelque chose à foutre, tu vois. Ben ouais, moi j'aimerais bien appliquer ça, mais dans les faits, ça m'affecte en fait. J'ai beau essayer, ça m'affecte quand même. Et je n'ai pas la solution à ça. Et honnêtement, encore, je te dis, je suis pas la pire exposée. Mais bon, ça met en avant plein de choses. Ça met en avant le problème du cyberharcèlement qu'on ne sait pas gérer. Ça met en avant le problème des réseaux sociaux et de leurs algorithmes et de leur mode de fonctionnement qui favorise en fait ce genre de choses et qui favorise le clash, la haine et compagnie. Et qui, pour moi, sont le problème vient en partie de l'outil, clairement. Ouais, enfin, clairement, il y a un souci avec ça.
C'est un énorme bordel, dans le sens où même, des fois, tu débats, enfin, tu essaies de débattre sans t'en rendre compte avec un gamin qui a trois fois moins que ton âge. Tu vois, des fois, il a 9 ans et demi, mais il est derrière un pseudo. Et puis, ou peut-être pas, peut-être 15 ans, mais bon, peu importe. Tu te verrais pas avoir ce genre de débat dans la vraie vie avec une personne qui est en train de traverser l'adolescence qui est dans sa phase où tu sais qu'il est en rébellion contre tout et qu'il veut juste faire du mal, ou tu dirais, tu sais quoi, tu dirais, allez, c'est un gamin et tu passerais à autre chose. Mais là, sous couvert d'anonymat, tu vas vouloir quand même, il y a un truc en nous qui veut rétablir la justice. De, attends, il faut qu'il comprenne ce que je suis en train de dire, il n'y a aucune méchanceté en moi, mais si en face, c'est juste un gamin ou quelqu'un qui a quelque chose qui tourne pas rond dans sa tête, bah, ça bougera pas. Et c'est ça, en fait, je pense, qui est épuisant au début. C'est que quand on a l'impression d'être quelqu'un de plutôt juste, de mesuré, de respectueux, on attend évidemment la même chose en retour. Et quand on ne l'a pas, notre cerveau, il ne comprend pas. Donc, on veut se battre pour ça. On se dit, mais non, mais c'est pas possible, il va se passer un truc. Mais,
tellement.
Mais ouais, c'est épuisant, ce genre de truc. C'est pour ça qu'il faut trouver des moyens de s'en préserver. Est-ce que toi, tu es consommatrice quand même des réseaux sociaux, au-delà de tout ce que toi, tu produis? Est-ce que tu passes du temps quand même tous les jours à regarder aussi du contenu sur Insta ou TikTok ou des trucs comme ça?
Bah, écoute, j'essaye de me limiter. C'est vraiment un chantier de travail chez moi parce que je pense qu'il y a beaucoup de pertes de temps. Tout n'est pas intéressant malgré le fait que j'ai fait un filtre. Moi, je ne suis que des comptes qui vont m'apprendre quelque chose ou en tout cas qui apportent un message qui va venir me faire grandir, me challenger, me montrer d'autres réalités. Et ça, c'est l'une des choses fantastiques avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on pourrait, a priori, sortir de l'entre-soi en allant comprendre c'est quoi la réalité d'une personne racisée. Moi, je ne vis pas cette réalité-là. Et donc, du coup, comprendre et rentrer en empathie avec ce qui se passe quand on n'est pas dans ma situation ou quand on n'est pas privilégié, ben, y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Moi, j'ai fait toute ma culture féministe sur Instagram, hein, concrètement. C'est comme ça que j'ai appris à militer, en fait, et à prendre conscience de toutes les problématiques qu'il y avait et faire le petit pas de côté, tu vois, qui te permet de comprendre des logiques systémiques. Et ça a été grâce aux réseaux sociaux. Donc oui, je consomme du contenu. Après, aujourd'hui, le problème est que entre la publicité et les algorithmes, il y a aussi beaucoup de contenu qui auparavant était du micro-learning ou carrément des vrais apprentissages qui aujourd'hui, pour continuer à être visible, doit faire le jeu du divertissement. Et on est en train de migrer d'une plateforme comme ça qui était... ou dans laquelle on pouvait trouver de l'apprentissage à une plateforme qui est purement du divertissement et avec des temps d'attention qui se réduisent drastiquement. Et ça, c'est vraiment problématique pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'utilise l'outil, mais je vois tout le mal qu'il me fait comme il me fait du bien, même en tant que pure consommatrice, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire que je vois que mon attention, elle diminue. Je vois que... c'est plus compliqué c'est plus simple. Mon cerveau, il va aller plus simplement vers les vidéos de 5 secondes qui sont marrantes plutôt que maintenant les contenus où il y a plus de texte et plus de réflexion et plus de complexité. C'est ouf, en fait. Et du coup, je suis en train vachement de me poser la question de quel est l'impact que ça a sur moi au-delà de mon travail sur les réseaux, ou en fait, sur ma vie, tu vois, le temps que j'y passe, est-ce que j'ai envie de passer ce temps-là là-dessus? Parce que quand je vois les personnes qui m'entourent, alors je choisis bien les personnes qui m'entourent, elles n'ont pas les réseaux sociaux.
Ça, c'est bien déjà, ça permet de maintenir un équilibre, c'est cool.
Mais ouais, mais à fond, mais moi j'adore, ça me détend.
Quand t'es en soirée avec ces personnes-là et que personne ne sort son téléphone pour regarder quoi que ce soit, à aucun moment, comme si personne n'avait de téléphone, ça c'est trop bien.
Et personne ne regarde son téléphone, et puis de toute façon... comment dire, ça me fait prendre du recul parce que personne n'a les réseaux sociaux Instagram, et du coup quand je suis là à parler de mes vagues de haters, tu vois, je me rends compte que si je voulais, je pourrais mettre mon attention sur des choses plus importantes dans la vie, tu vois. Même si bon, voilà, ça m'affecte et tout, et que je reçois du soutien et tout, mais les gens me disent, comment tu veux qu'on te soutienne, ils ont pas les réseaux sociaux,
ouais.
Tu vois.
Ouais, c'est sûr, et puis c'est comme parler une autre langue pour eux, ils se rendent jamais compte de ce que c'est s'ils le vivent pas au quotidien. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que toi, t'es quand même dans un partage toujours positif, c'est toujours avec humour ce que tu mets sur internet.
Oui, et sincère surtout aussi.
C'est sincère, c'est avec humour et c'est intelligent, je veux dire, t'es pas dans une espèce de provocation, de haine, de t'es pas en train de donner des leçons. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que je le reçois. Et c'est d'autant plus étonnant que des personnes comme toi reçoivent de la haine. Et ça montre bien que quoi qu'on fasse, et même quand on est le plus juste possible et le plus en accord avec soi-même, le plus aligné, il y aura toujours des énervés autour parce que eux ne sont pas heureux, sans faire de la psychologie de bas étage. Mais voilà, il y a des trucs qui vont pas dans leur vie et qu'ils ont de la haine à sortir, et que s'ils la sortent là sur toi, et si c'était pas toi, ce serait quelqu'un d'autre.
Et ben tu vois, ça, j'en ai vraiment pris conscience il y a pas longtemps, parce que ce week-end même, parce que je me suis retrouvée avec d'autres créateurs et créatrices de contenu dans le cadre d'un week-end. Et à un moment, il a émergé une discussion justement sur ça. Donc, c'est que des personnes qui portent des valeurs qui sont plus ou moins militantes, mais en tout cas, ont chacune des projets avec quelque chose à dire, disons. Et en fait, je me suis rendu compte, enfin, moi, je les trouvais tous et toutes trop géniaux parce que je me disais, waouh, telle personne va parler du sans-abrisme, telle personne va parler, je sais pas, genre de plus de conflits, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était tous et toutes exposés à ça. Et quoi que tu fasses, en fait, et quoi que tu dises, et même si tu fais des trucs trop bien, il y a des gens qui tombent dessus. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment un phénomène. C'est pas que moi, ça me concerne pas que moi, ouais. C'est vraiment... Tout le monde est affecté comme ça. Et du coup, je suis en train un peu de digérer l'information, tu vois, et de me dire, ah ouais, faut vraiment que je le prenne pas contre moi, quoi.
Oui, c'est ça. Peut-être plus se dire, c'est pas personnel, mais ça devient plus un sport national, quoi.
Puis le ressenti.
Ah ouais, c'est ça.
Le ressenti est toujours biaisé parce qu'on pense jamais aux silencieux, mais même si j'ai aucun chiffre là-dessus, je fais partie de ces gens-là, des silencieux, de ceux qui likent pas forcément beaucoup, de ceux qui commentent pas forcément beaucoup, mais qui sont là et qui peuvent apprécier, mais qui gardent le moment pour eux, en fait, qui le manifestent pas forcément.
Sûr.
Et alors que la haine, c'est vrai, j'ai l'impression, va plus facilement emmener les gens à écrire,
exactement,
à balancer un message.
Ouais,
alors que quand tu aimes, tu vas le garder plus facilement pour toi, j'ai l'impression.
Exactement. Mais c'est un peu, tu sais, l'histoire de la majorité silencieuse et la minorité bruyante, en fait. Mmh. C'est vraiment ça qu'on retrouve. Et ouais, je suis d'accord. Et même moi, genre parfois, tu vois, j'observe, je suis juste en posture de spectatrice sur certains trucs qui sont en train de se passer. Et puis, il faut que je fasse un peu une démarche, un effort de me dire, non mais attends, t'as déjà été à cet endroit-là, tu sais que c'est douloureux, envoie du soutien, tu vois. Mmh. Mais c'est pas forcément non plus mon propre réflexe. Donc, tu vois, je porte pas de jugement du tout sur les personnes qui sont dans une posture d'observateur, d'observatrice, parce que je peux l'être moi-même. Parfois, sinon, y a aussi un état de fait qui fait que sinon tu passes ton temps à écrire des messages et t'es que dans le digital. Et moi, ouais, je crois vraiment que le digital, ça doit être un moyen au service d'une fin et pas une fin en soi. Donc, tant mieux si les gens ne passent pas du temps accrochés à leur téléphone, à laisser des commentaires et des messages dans tous les sens. Enfin, tant mieux, tu vois. J'ai reçu là un message d'un abonné qui me suit depuis très longtemps. Alors, je ne l'ai jamais rencontré en vrai. Mais par contre, on s'écrit depuis des années. Et il m'a fait un message pour me dire, écoute, je voulais te dire que je quitte les réseaux sociaux, je quitte Instagram, et je voulais te remercier pour tous les échanges qu'on a eus, tout ce que ça m'a fait évoluer, toi et d'autres, de voir les contenus, ça m'a nourri, et maintenant, je veux passer à autre chose. Et j'étais là en mode, mais bravo mon gars, vraiment, bon vent. C'est trop bien que tu fasses ce chemin-là, et voilà, et moi j'y crois, et moi je pense vraiment que de toute façon, c'est paradoxalement, mais dans le monde dans lequel on se dirige, on va avoir besoin de déconsommer et de revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré de la consommation qu'on fait des réseaux sociaux.
Ouais.
Parce que du fait de la pollution, d'une part, du fait que c'est pas pérenne, d'autre part, et du fait que dans une logique d'économie de ressources, est-ce que vraiment tu as envie de passer du temps à balancer des commentaires ou alors à faire des vidéos divertissantes sur Internet plutôt que utiliser cette ressource énergétique à d'autres choses, quoi. Oui, voilà, si on voit un peu plus loin.
C'est toujours assez compliqué ce genre de questionnement, forcément, parce que c'est des outils. C'est comme, je ne sais plus qui a. C'est Bon Pote, je crois, qui a diffusé un truc à ce sujet, qui a publié un truc sur la phrase t'es écolo, mais t'as un iPhone.
Mais t'as un smartphone.
Oui, c'est ouais. Bon voilà. Pote.
Mais évidemment qu'il faut aussi utiliser les outils d'aujourd'hui pour se faire entendre, surtout quand le message est quand même noble et qu'on est en train de diffuser des. Qu'on est en train de défendre des causes qui sont importantes pour nous, qui sont importantes pour cette planète. Et après, c'est quand même normal de se poser la question de, bon, au bout d'un moment, est-ce que je dois pas arrêter ? Bon, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'en tout cas, des gens comme toi sont totalement dans leur rôle aujourd'hui, dans le sens où ils touchent des gens et qui nous permettent d'ouvrir les yeux sur plein de choses, de nous informer. Je pense que c'est à nous, après, en tant que personnes spectatrices, qui devons aussi avoir, prendre nos responsabilités de, ok, j'ai appris des choses, j'ai eu des déclics en moi, et peut-être qu'à un moment, j'ai moins besoin de regarder mon téléphone et que j'ai plus envie de m'investir.
Ouais, c'est ça, c'est un équilibre à trouver en fait. Et je trouve que moi, nos rôles en tant que voilà, média activiste, leader d'opinion sur ces sujets-là, enfin pour certains, il est que on vient se poser en contradiction, opposition, nuance d'un discours dominant, tu vois. Et que aujourd'hui, parce que on a des discours dominants, qui sont des discours avec des normes écocidaires, avec genre la promotion de modes de vie type American Way of Life, qui sont complètement cannibales des ressources limitées qu'on a collectivement sur cette planète. Et en fait, si vu que c'est ça qui nous berce dans nos imaginaires, dans nos récits collectifs, etc., c'est les discours dominants qui sont aujourd'hui fondamentalement problématiques, on a besoin d'aller là où ils sont pour essayer de challenger ça et montrer que non, il y a d'autres façons de faire, que ce n'est pas pérenne et qu'on peut, on doit imaginer collectivement des nouveaux récits.
Ouais.
Et pour moi, surtout sur des réseaux sociaux qui sont des réseaux sociaux, on dit très souvent d'inspiration, aspirationnelle, etc., etc. On a besoin de créer de l'inspiration sur d'autres modes de vie qui sont plus résilients, qui sont plus solidaires, qui sont plus durables. Et du coup, pour moi, tant que ce discours-là n'a pas réussi à contrebalancer le discours dominant ou à s'imposer comme une véritable initiative, eh ben, on a besoin de prendre la parole et de continuer à prendre la parole partout où on peut dessus. Là, je parle des réseaux sociaux, mais en fait, on se parle de tout. On se parle des œuvres cinématographiques, on se parle des livres, on se parle des BD, des romans, de tout ce que l'on se représente, tu vois.
Ouais.
Et pour moi, c'est important d'aller occuper l'espace. Moi, la raison principale pour laquelle j'ai lancé ma page, c'était parce que je voulais occuper l'espace. Parce que je me disais, c'est pas possible qu'on entende toujours les mêmes qui disent toujours les mêmes choses, tu vois.
Et ce qui est bien par rapport au contenu que vous faites sur les réseaux sociaux, qui n'est pas le cas par exemple sur la BD ou quoi, même si évidemment toutes les formes de communication sont hyper importantes, mais ce que je trouve puissant aujourd'hui dans le fait que des gens partagent leur quotidien et leur combat sur les réseaux, c'est qu'on ne peut plus marginaliser comme il y a 10 ou 20 ans des gens qui prennent des positions fortes. Avant, on te parlait d'un végétarien, d'un vegan, t'imaginais le gars qui machin. Si on disait un couple est parti vivre dans la forêt pour ne plus occuper justement des sols, enfin voilà, ils vivent en résilience avec la nature, machin. Tu dirais quoi ? C'est quoi ces barjots ? Mais quand ces gens-là, tu les vois, que tu vois que c'est des gens intelligents qui ont fait, qui ont à peu près le même parcours de vie que toi, mais genre c'est des humains semblables à toi et qu'ils en sont là, il y a peut-être un truc de ah ouais, en fait c'est possible et je suis pas obligé d'être juste le petit toutou qui suit ce que lui dit le gouvernement, la société, papa, maman, peu importe. Et en fait, c'est totalement sensé aussi et intelligent que de se dire, bah non, moi, j'ai pas envie de prendre cette route-là, j'en prends une autre. Et pourtant, j'ai pas des dreads et un chien et je jongle pas devant la cathédrale.
J'ai l'anneau dans le nez. Je vais peut-être enlever un moment parce
et
que
même...
ça me descend.
Et même si t'as des dreads, en réalité, tu peux avoir des dreads et
tu
peux avoir un chien.
Mais tu fais ce que tu veux, et des bolasses.
Mais oui, il n'y a pas de problème en réalité. En réalité, on s'en bat les steaks. C'est juste que c'est plus difficile quand t'as pas ça pour les gens de se faire des...
Ok, mais tu vois, par exemple, le cliché du gars de la boule avec son pull sur les épaules, il s'en fout de ce cliché, tu vois.
Oui, parce qu'il correspond bien à ce qu'on aime dans notre société, ça, la réussite, surtout via l'argent.
Et les couleurs pastel.
Et voilà, il y a un gars qui dit j'ai lancé ma start-up. Ouais, ok, bah c'est super.
Mais oui, mais parce que ça, c'est le discours dominant qu'on nous vend comme le succès et la réussite, tu vois. Et en effet, là où je te rejoins, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort de voir quelqu'un qui s'engage avec qui tu peux t'identifier. Et moi, je pense que Alors, je pense que c'était très vrai au début, ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui parce que j'ai moi-même beaucoup évolué, mais au début, je pense que ce qui fonctionnait bien, et c'est que les personnes, j'étais un peu une meuf lambda, en fait, qui voyait derrière leur écran et que, je suis, tu sais, vraiment The Girl Next Door sans la connotation, quoi. Et du coup, je pense que c'est ça qui faisait qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont pu se dire, si cette nana-là, haute comme trois pommes, parce que je fais moins d'1m60, elle va se faire des actions de désobéissance civile, parce qu'elle est convaincue que c'est hyper important, et je la vois dans son quotidien, c'est pas une ouf en fait, hein. C'est pas une dingo militante, voilà, ben peut-être que moi aussi je peux avoir ma place et ma légitimité à faire ça, parce que ça me parle, tu vois. Aujourd'hui, je pense que voilà, j'ai plus évolué, et les gens peuvent se dire « Ouais, elle est trop loin dans son délire, c'est moins proche de moi », mais il y a aussi des nouvelles personnes qui arrivent et qui elles-mêmes sont sur un chemin de transformation, et voilà. Et encore, moi, j'essaye de parler à vraiment tout le monde. Moi, j'ai pas du tout envie de faire de la pureté militante et de parler qu'à une partie de la population. Je pense que là où je suis vraiment douée, c'est justement... Enfin, des personnes qui sont ultra militantes, j'ai rien à leur apprendre, hein, concrètement, tu vois. On est là, on se parle, on peut convaincu, ah super, on est d'accord, ah ouais, on est d'accord, genre ça va mal. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler à des gens qui, justement, n'ont pas cette prise de conscience-là, tu vois, et c'est déclencher des prises de conscience. Ça, c'est là où j'ai mon rôle, tu vois.
Puis même, moi, je trouve que, tu vois, moi qui te suis depuis très longtemps maintenant, on a vu ton évolution, tu vois, t'as déménagé. D'ailleurs, j'aimerais qu'on en parle aussi, de savoir où t'en es dans ta vie, comment tu vis dans ton écolieu.
On y vient, ce sera après la pub.
Je croyais que t'allais faire une fausse pub.
Non, j'ai la flemme.
Mais tu vois, moi qui te suis depuis longtemps, bah, en fait, je trouve ça plutôt logique comme ascension militante, en fait, je trouve, tu vois.
Ouais.
Enfin, c'est, tu vois, t'as quitté les grandes villes, t'es allé vivre dans la nature. Enfin, du coup, tout ça, c'est ultra cohérent, quoi. Pas toi, quelqu'un.
Mais ouais, mais quant à l'historique, c'est... moi aussi, je trouve ça hyper cohérent. Et honnêtement, pour moi, tout s'est fait genre sur un temps long, déjà. Et ça a été une suite de tout petits pas qui se sont logiquement suivis. Mais tu vois, genre, là, je pense que je rencontrerai la Camille d'il y a 5 ans et je lui raconterai ma vie. Genre, j'hallucinerai, tu vois. La Camille du passé, elle hallucinerait. Je dirais, no way, jamais je vais faire ça. Tu vois, genre, il y a vraiment un truc de... Pour moi, ça a été vraiment très doux, très crescendo, et à aucun moment je me suis forcée. Il y a plein d'endroits où, tu vois, typiquement faire un déménagement à la campagne, pendant très longtemps, ça m'a fait super peur, tu vois, genre vraiment. Et j'ai vraiment attendu à chaque fois d'être prête, et tout s'est pas passé d'un coup. Je pense que je peux vraiment essayer de dater les trucs. Enfin, si je prends la fourchette longue, vraiment depuis le moment où je me suis dit « Ah tiens, et si je diminuais un peu ma consommation de viande ?» Et jusqu'à maintenant, on se parle peut-être de 8 ans, mais... Les grandes transformations, elles ont peut-être eu lieu sur 5 ans. Et 5 ans, l'air de rien, dans une vie, c'est pas si énorme que ça, tu non. vois. Genre, pour opérer des changements vraiment grands.
Non, et donc, puis c'est vrai que le temps file, quoi. Le temps nous échappe.
Ah ouais, mais c'était pas le sujet. Mais ouais, faut pas parler de ça, parce que c'est vrai que.
Allez, ça va mieux.
Tout à l'heure, on parlait de la mort, là, avant de commencer le podcast.
C'est vrai, ça.
Ça va aller, on a encore
on
du temps.
On est hyper positif aujourd'hui.
C'est dès qu'il pleut, ouais. Dès qu'il pleut, ça joue. Ouais. Alors justement, quand t'as quitté Paris, toi, que t'es parti d'abord vivre dans une ferme,
ouais,
qui s'appelait la ferme de Peton.
Non, pas loin. Ouais, exactement, la ferme de Peton.
Et tu n'y es plus, là?
Alors en fait, j'ai déménagé dans une maison juste à côté, à 5 minutes à pied, parce que y avait beaucoup de... C'est un lieu qui accueille beaucoup de public. Et donc, du coup, l'idée, c'était de pouvoir, au bout d'un moment, sortir de la maison pour que la maison, elle reste purement de l'accueil de public et qu'on puisse petit à petit, genre, établir plus une communauté au sein du village.
D'accord.
Tu vois, donc là, je reste dans une maison avec d'autres personnes et avec, comme ça, de plus en plus de liens autour avec d'autres écolieux, tiers-lieux et compagnie. Et du coup, c'est actuellement là où je suis, ouais, toujours.
Ok. Et donc, t'as passé un diplôme d'agricultrice.
Oh là là, ouais. Et je vais te dire, Camille, depuis le début, oui, moi, je veux savoir si elle a eu son diplôme, un vrai daron.
Quoi? Je voulais savoir.
Vraiment, c'est vrai que j'ai pas forcément... Mais en fait, comme je fais plusieurs choses à la fois, parfois, je peux comprendre que les gens se perdent. Si vous voulez, je peux aussi vous parler de mon van. Parce que
c'est vrai
un autre sujet que j'ai abordé et après, on en a plus trop entendu parler.
C'est vrai que t'avais fait un van aménagé, ouais.
Ouais, exactement.
Alors, les choses dans l'ordre. Déjà, est-ce que t'es agricultrice officiellement, ça y est?
Alors, officiellement, j'ai mon diplôme. Donc okay. Ça, c'est trop cool. Après, pour être agricultrice officiellement, il faudrait que j'ouvre ma propre exploitation agricole, chose que je n'ai pas faite. Pour l'instant, ça me va très bien de filer des coups de main, tu vois, okay. d'avoir ouais. les compétences et de continuer à monter en compétences par l'expérimentation, okay. en fait, tout simplement. Donc, j'ai pas à date, à court terme, de projet de lancement d'exploitation agricole. Par contre, je trouve que c'est hyper important d'être prête, entre guillemets, et de me sentir à la fois outillée, mais en ayant également les diplômes qui me permettraient de pouvoir acquérir des terrains plus facilement que si je n'étais pas diplômée. Parce que pour vous la faire très courte, en gros, c'est quand tu as un terrain agricole disponible, tu as un certain nombre de priorités qui sont données à des personnes, tout ça étant géré par la SAFER, qui est une espèce de petite mafia. Voilà, si déjà t'es pas dans les petits papiers des gens qui attribuent les terres,
balance la Camille, hein. Tu vas avoir des problèmes là.
Voilà, SAFER sur le dos.
Ah, c'est sûr. Et moi je vais te dire la SAFER.
Voilà, SAFER, je connais que ça parce que genre quand t'achètes une maison, il faut savoir si la SAFER veut pas l'acheter avant toi, je sais pas quoi.
Ouais.
Je
crois que c'est vrai, tu connais, ouais. Je croyais que tu blaguais, moi.
Non, je connaissais que ça. Moi, la maison, vu que je suis le troisième propriétaire, il fallait que la SAFER dise je la veux pas, elle est trop moche. Et puis après, je la gardais.
C'est vrai?
Ouais,
tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, mais tu te doutes bien que comme dans tout, si tu connais les gens qui se positionnent ou non, ça aide ou
ouais,
non.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Mais ça veut dire quoi, ça faire?
Ouh là là, mais pas moi, j'en sais rien du tout.
Mais Camille.
Écoute, l'acronyme, en vrai, genre, je suis en train de regarder.
Je voulais pas vous mettre dans la panade.
Société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Bon, j'aurais super. Pas dû poser la question. Je l'aurais oublié. Je l'aurais oublié dans 10 secondes.
donc voilà, en fait, si tu veux, donc ça c'est moi je le vois ce diplôme comme étant quelque chose qui me légitime pour pouvoir un jour potentiellement me positionner.
D'accord.
Et avoir une chance d'obtenir une terre agricole et ensuite qui me permet aussi de pouvoir continuer à évoluer sur le fait d'apprendre à cultiver soi-même ce qu'on mange. Ce qui pour moi fait partie un peu des savoirs essentiels à réapprendre en fait dans notre société. Et ça ne veut pas dire nécessairement passer par un diplôme d'agriculture, hein. Ça veut dire que simplement si déjà tu as un petit potager chez toi et que tu te rends autosuffisant sur 40% de tes légumes, c'est déjà ouf.
Ah oui, je vais dire, nous tout l'été on a mangé les courgettes de Greg.
Il avait beaucoup. Hein. Oh
Et ben franchement.
Fallait aimer la courgette.
Oui, c'est vrai.
En dessert, en plat, en entrée, en parfum.
Ouais.
On en a fait des t-shirts.
Je vois très bien. Je connais. J'ai eu la même cet été.
Mais même, on a mangé ses tomates aussi. Enfin, il y a quand même un côté.
Ouais, c'est satisfaisant.
Alors, même si moi, tu vois, par exemple, quand j'en parle à ma mère, elle me fait nous aussi, on mange des légumes du jardin et tout. Mais moi, j'ai pas connu ça. J'ai vécu 20 ans de vie citadine.
On en parlait aussi avec Brigitte Gauthier, qui a cofondé L214 il n'y a pas très longtemps. Oh. Au début du siècle dernier, quand même, la majorité des gens qui étaient en zone rurale avaient tous, ils étaient autonomes en nourriture. Ils avaient leurs quelques animaux, ils mangeaient de la viande très rarement avec les quelques animaux qu'ils avaient, puis ils savaient gérer l'élevage. Ils avaient leurs légumes, leurs fruits, et ils se démerdaient avec ça, en fait. Ils achetaient très rarement des choses.
Mais carrément, mais parce que déjà, t'avais pas les hypermarchés dans les zones rurales qui du coup captent tout. T'avais pas la voiture pour te rendre à l'hypermarché et compagnie. Et en effet, et ça n'a pas complètement disparu en vrai. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, moi je vois en zone rurale, beaucoup de gens qui ont encore leur potager parce qu'en fait c'est du bon sens et c'est cette espèce de bon sens paysan qui s'est pas complètement perdu. Alors, on l'a complètement perdu en ville, hormis quelques initiatives de potager urbain et collaboratif et compagnie. Mais c'est plutôt un retour. Mais en campagne, ça n'a pas complètement disparu. Tu vois, genre, on sait qu'à la ferme, typiquement, tu te rends bien compte que par moment, les courgettes et les tomates, les gens, ils te disent non, mettez-moi-en moins parce que, en fait, j'en ai chez moi.
Ouais.
Tu vois, genre, il y a certains légumes comme ça. Donc, du coup, il y a. Ça se sent qu'il y a quand même un lien à la terre qui est un peu moins abîmés ou et encore que dans les villes. Mais même dans les villes, en fait, c'est très récent, cette espèce de coupure de la terre, parce que tu prends même Paris, tu avais encore des zones agricoles, genre quand tu allais vers Montmartre il y a un siècle, les fameux murs à pêche et compagnie, tu vois. Donc il suffisait de pas s'éloigner de très loin pour pouvoir aller cultiver des trucs. Et encore une fois, il y a plein d'autres villes dans le monde dans lesquelles ça reste beaucoup plus présent. Il y a plein de villes dans lesquelles, je pense à la Grèce notamment, mais dans lesquelles les arbres pour créer de l'ombre, c'est des arbres fruitiers. Ouais. Donc en fait, n'importe qui peut aussi, il y a cette espèce de conscience collective de pouvoir s'occuper des arbres fruitiers, de ça, tu vois, qui ça crée des petites forêts nourricières même en ville, et récolter et compagnie, tu vois.
Alors, ce qui est à la fois génial et à la fois hyper embêtant, c'est que ce podcast, je pense, n'a pas du tout pris la direction que, en tout cas, moi, j'avais imaginé, dans le sens où je voulais...
Tu peux me rediriger.
Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Parce qu'en réalité, moi, je voulais qu'on parle un peu des contenus et notamment des thèmes que tu as abordés récemment, parce qu'il y en a plein qui m'intéressent. Mais en réalité, tout ce qu'on dit aussi depuis le début est super intéressant. Je pense qu'en fait, avec toi, on pourrait faire 15 podcasts. C'est surtout ça que je voulais dire. Et je m'attendais pas, tu vois, bon, les réseaux sociaux, je sais pas, on en a parlé un peu avant, mais je trouve ça hyper intéressant de parler de ça, mais surtout là, ce qui me vient par rapport à tous ces sujets sur lesquels on échange, c'est aussi d'aborder le thème de la vie en communauté, tu vois, alors que j'avais pas forcément ça en tête à la base, mais je sais que moi, c'est quelque chose qui germe un peu dans ma tête depuis quelques temps, et on en parlait avec Anso il y a pas très longtemps, parce que si tu veux, depuis quelques mois, on a pris la décision d'organiser des séjours, en fait, dans une vieille maison en pierre, pas très loin d'ici, un peu bien-être, même si j'aime pas, à chaque fois je dis ça, mais j'aime pas appeler ça comme ça.
Oui, mais en fait, le but c'est ça, c'est d'être bien.
Le but c'est se faire une petite bulle où justement il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien, on est juste des humains qui ne se connaissent pas et qui passent un bon moment. Et donc, le matin, c'est soins énergétiques, méditation. Ensuite, on a des exercices d'art-thérapie avec ma sœur qui est art-thérapeute. Et l'après-midi, on donne des cours d'improvisation, on fait de l'éveil à l'improvisation tous ensemble. Il y a aussi des cercles de parole le soir. Et Anso, elle nous fait de la bonne nourriture assistée de mon épouse. Elles sont toutes les deux à fond en cuisine. On est vraiment dans le cliché, c'est ça. Moi, je vais à la chasse.
Non, mais c'est parce que c'est ta passion. On fait de la boue végétarienne. Puis, oui, c'est parce que c'est ma passion.
C'est végétarien, et puis on fait ça au maximum avec les fruits, les légumes du jardin. Et pourquoi est-ce que je parle de ça à la base? Oui, parce qu'en fait,
en communauté.
On crée une espèce de petite communauté sur 4 jours qui est incroyable. On l'a fait deux fois, ouais, avec deux groupes. Quand tu te quittes, tout le monde pleure autour du dernier feu de camp, et tu sens que tu as vraiment partagé un moment authentique avec des humains super que tu aurais peut-être croisé au magasin de ta ville sans même les regarder, parce que poussez-vous, putain, je vais attraper les patates.
Ouais,
et,
à fond.
Et là, tu te rends compte que quand tu es là et que tu peux vraiment partager des valeurs et ouvrir ton cœur, et que tu n'es pas dans une représentation mais vraiment dans l'humain, ta vie elle te secoue. Là, tu te rends compte que c'est ça en fait l'existence sur Terre. C'est pour
mais
ça qu'on est là, c'est pas pour aller chez Zara, quoi.
Mais complètement.
Et donc nous, ça nous a donné envie de nous dire, si on pouvait imaginer un modèle comme ça sur du plus long terme, c'est-à-dire partager comme ça une habitation avec plusieurs personnes. Donc bref, cette grande phrase pour te demander comment ça se passe de ton côté, justement, la vie en communauté.
Écoute, moi j'ai envie de revenir, moi je suis tellement, tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, et pour moi, si on prend du recul, il y a deux choses qui sont capitales et que j'ai mis du temps à comprendre au début, parce qu'au début j'étais très dans l'axe écolo, mode de vie écolo et tout. Mais en fait, il y a deux grandes questions qui se posent. C'est comment on habite le monde autrement, comment on change notre rapport au vivant, mais aussi comment on fait société autrement. Et pour moi, c'est les deux pieds d'un même géant, en fait. Mmh. C'est-à-dire que tu ne peux pas habiter le monde de manière plus respectueuse, durable, etc., du vivant, si en parallèle, tu ne t'adresses pas à tout, si tu ne refondes pas ta manière de vivre ensemble, si tu ne repenses pas tes relations interpersonnelles, si tu ne t'adresses pas aux dynamiques d'oppression, de pouvoir, etc., qui sont en place dans la société actuellement. Donc pour moi, ces questions-là, elles sont en symbiose et c'est hyper important. De la même manière que c'est important de faire pousser ses légumes, c'est important d'apprendre à se parler et habiter le monde ensemble de manière différente et relationner de manière différente. Donc déjà, merci de le poser parce que je trouve que c'est absolument capital. Et justement, j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années à me former sur ces questions de gouvernance partagée, sociocratie, holacratie, etc., qui sont d'autres modèles de faire société, en fait. Et puis, ça peut s'étendre à tous les domaines, évidemment. Ça peut s'étendre jusqu'à l'école, enfin, parce que voilà, on est dans un monde qui est très hiérarchique, qui est très vertical, descendant. Mais en fait, ce n'est pas du tout la seule façon de faire. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, dans ce que tu dis, moi, j'entends aussi autre chose qui est typiquement, je peux parler des récits dominants. Aujourd'hui, dans les récits dominants qu'on se raconte et qui meuvent nos vies, il y a celui du « c'est la loi du plus fort ». Tu vois, c'est-à-dire que si je veux réussir, il faut que j'écrase les autres. Alors que ce n'est qu'un récit et qui n'est même pas prouvé, dans le sens où quand tu observes la nature et le monde sauvage, tu te rends compte que le récit de la que les pratiques de coopération sont aussi efficaces, si ce n'est beaucoup plus, pour les sociétés, les sociétés des espèces vivantes, en fait. Donc, globalement, on est plutôt dans le monde vivant sur un modèle de base de coopération avec des petites piques de compétition. Okay. Et en fait, pour moi, ça, c'est hyper important de se dire, ce modèle, cette histoire que l'on se raconte du « il faut que je sois meilleur que les autres, il faut que j'écrase les autres », mais ce n'est qu'une histoire. Et que face à ça, on pourrait avoir typiquement un autre récit qui serait « en fait, pour être heureux, j'ai pas besoin d'écraser les autres, pour être heureux, j'ai pas besoin d'avoir plus, pour être heureux, j'ai besoin de plus de liens ». Par exemple. D'où les fameux slogans « moins de bien, plus de lien ». Mais oui, en fait, ça pourrait être ça, se dire « ah, ben, j'aurais réussi ma vie quand je serai nourrie de plein de liens sociaux super épanouissants », tu vois. Donc voilà, donc tout ça pour dire, je suis désolée, je fais un petit peu un point parce que ça me tient à cœur,
c'est super intéressant.
Oui, je suis à fond d'accord avec ça, et que du coup, c'est pour ça que j'ai choisi dans ma vie aussi d'essayer de nourrir ça à balle, parce que malheureusement, on a été ces dernières années façonnés de telle sorte à ce qu'on a beaucoup plus mis le curseur du côté de l'individualisation et typiquement justement du repli sur soi plutôt que de l'ouverture et de la coopération et de la solidarité. Et pour moi, c'est comme un muscle, ça se travaille en fait. On a très peu de littérature sur la coopération. C'est pas du tout notre modèle par défaut actuellement dans notre société occidentale. Et donc, du coup, il y a besoin de se déconstruire pour reconstruire des façons de faire qui partent justement du « je me mets en tant qu'individu au service d'un collectif et d'un projet » et non l'inverse. Voilà. Et en fait, ces changements de perspective-là, ces changements de paradigme-là, ils sont hyper dur à faire, ils sont importants et pour moi ils sont structurants. Et donc du coup, le fait de vivre en collectif, c'est devenu aujourd'hui une conviction que c'est comme ça qu'on va y arriver, mais c'est aussi une manière de m'entraîner en fait, de m'entraîner à me retrouver dans des situations qui peuvent être des situations de conflit, qui peuvent être des situations inconfortables, qui peuvent être des situations où je me sens pas vue, reconnue, écoutée ou quoi, et comment je réagis dans cette situation-là. C'est quoi mes réflexes? C'est quoi mes postures réflexes? Et est-ce que je peux en inventer d'autres? Et est-ce que je peux oser parler à l'autre? Est-ce que je peux fonctionner sur des nouvelles modalités qui ne sont pas le repli, le commérage, la défiance? Tu vois, est-ce que je peux avoir une conversation avec quelqu'un en partant du principe, du présupposé que cette personne a les meilleures intentions pour moi? Tu vois? Et c'est ça change fondamentalement les choses. Est-ce que je peux être face à quelqu'un et écouter son point de vue en ne pensant pas à ce que je vais lui répondre et en lui montrant pas qu'il a tort, j'ai raison, mais est-ce que je peux essayer de le rejoindre, tu vois, là où y aller, tu vois. Et en fait, tous ces changements-là, ils sont hyper difficiles à faire au quotidien, et en même temps, il peut se passer aussi des trucs tellement beaux, parce que du coup, genre, d'une certaine manière, tu te retrouves dans ton humanité. Tu vois, ça fait un peu cucu les petits réseaux, mais genre, c'est tellement un changement profond et radical. En fait, c'est ce qu'on peut appeler de l'écologie profonde, tu vois. Et c'est complètement révolutionnaire dans cette manière de nous penser et de nous penser dans notre rapport aux autres. Et du coup, loin d'être cucu les petits oiseaux et bisounours, pour moi, c'est un acte révolutionnaire. Vraiment. et qui est pas facile en plus. Donc du coup, ben, comment ça se passe dans mon écolieu? Ça se passe bien. On a la chance, et je pense que ça c'est assez, c'est ce qui rend les choses plus faciles. On a la chance de partager des outils et une culture commune très forte, à savoir qu'on a été formés à différents outils. Donc, tout ce dont je vous parle ici, c'est vraiment des... Enfin, on débarque pas comme ça et en s'imaginant tout refaire. Il y a quand même des petits jalons, des petites choses qui ont été posées, notamment par des instituts comme l'Université du Nou, qui travaille depuis des années sur ces questions-là. Il y a aussi tout le travail de Starhawk qui s'est beaucoup intéressé à comment vivre en collectif et compagnie. Enfin bon, bref, il y a quelques personnes qui ont posé des choses. Il y a tout ce qu'a fait aussi Marshall Rosenberg sur la communication non violente. Il y a aussi aujourd'hui des mouvements qui d'honnêteté radicale. Et nous, au sein de mon groupe, en fait, on a ça en commun, ce qui fluidifie énormément les échanges. Et qui permet des prises de hauteur qui font que c'est un peu plus simple. Là où moi je suis intéressée d'aller, parce que là c'est cool, on a tous à peu près le même âge, on est tous blancs, on a tous un parcours à peu près similaire, à savoir qu'on a fait des grandes études et on a bifurqué à 180 degrés, et on partage tous ces outils, on est tous formés à la gouvernance partagée, à tout ça quoi. Du coup, ça va, ça se passe bien et on arrive à traverser les tempêtes en devenant plus fort. Parce que évidemment qu'il y a des tempêtes. À partir du moment où tu gères de l'humain, évidemment que c'est de la matière vivante et genre c'est explosif, quoi, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de me dire, bon, là, j'ai eu le niveau facile entre guillemets.
Ouais.
Ça donne quoi quand je suis avec des personnes qui viennent pas du même milieu socio-pro que moi, qui viennent pas du tout de la même catégorie sociale, qui ne partagent pas la même culture que moi, qui n'ont pas les mêmes privilèges que moi, etc., etc. Est-ce que ça marche? Moi, c'est ma question du moment, tu vois. Ma question du moment, c'est vraiment de me dire, est-ce que ces outils qui ne restent que des outils, c'est pas des trucs miraculeux ou des fins en soi, hein, c'est aussi comment on les utilise. Est-ce que ça marcherait avec des personnes qui sont pas de base assez convaincues de ça va être cool? Voilà. Est-ce que je vais réussir à dialoguer aussi facilement, créer du lien, créer du nous aussi facilement avec des personnes avec qui je partage pas ça? C'est là que ça m'intéresse, parce que globalement, dans des situations de rupture de la normalité, même s'il y a de l'entre-soi, le principe, c'est de composer avec les autres. C'est composer avec l'altérité, en fait.
Mais Camille, du coup, toutes les questions que tu es en train de te poser, est-ce que c'est en train de te mener à un nouveau projet où tu vas...
C'est en gestation. Clairement, je suis en gestation.
Donc c'est dans 5 ans, alors, tu disais. Pour toi, c'est à peu près 5 ans, la gestation.
Elle en a sous la boîte. <c'est
là-dessus. rire> Non, mais c'est intéressant, oui, de se poser ces questions-là. Et puis, ça montre aussi une grande... Je sais pas, une grande intelligence et émotionnelle, oui, et curiosité, un grand cœur, une grande humanité, j'en sais rien, mais c'est sain. Je trouve ça super sain, en fait. Donc j'espère que ouais, enfin de toute façon, il y a pas de j'espère. Je sais que tu vas continuer à cheminer. Ton parcours le prouve et tu vas continuer à avancer tranquillement et à découvrir plein de choses. Et j'espère que nous aussi de notre côté. Mais non, c'est...
On dirait que tu vas te mettre à pleurer, tu sais.
Je trouve ça passionnant, mais non, parce que moi, honnêtement, j'en parle assez souvent. Allez, c'est mes 2 minutes de déprime, mais j'ai vraiment énormément de mal à, je pense comme plein de monde, à vivre dans ce monde-là. Non pas parce que mais moi je suis plus sensible, je suis plus intelligent, parce que moi je suis quelqu'un de en fait, le monde n'est pas adapté à... Bon bref, c'est pas ça que je veux dire. Mais en gros, j'ai quand même beaucoup de mal, voilà. Est-ce que c'est bien, pas bien, j'en sais rien, mais c'est très très difficile pour moi de vivre ici, dans ce monde. Et je sais que les seuls moments où je me sens vraiment pleinement vivant et bien et en confiance, c'est justement dans les rapports sociaux, quand on est dans des rapports honnêtes avec des gens. Et je me rappelle, parce que moi, ce qui me faisait vraiment jouir de tout mon être...
Bah dis donc, tu remballes ton bazar, hein.
Quand j'étais plus jeune, c'était juste... c'est cliché, mais aider une mamie à monter sa valise sur l'étage du haut du TGV et qu'elle te disait merci avec ses petits yeux qui pétillaient, bah, j'étais trop content de ce moment. Et non pas parce que j'étais fier de moi, de elle a vu, j'ai des pecs, et j'ai les biceps, j'ai réussi à lever sa valise, mais parce que c'était beau. Et là, en fait, maintenant oui. qu'on est des années plus tard et qu'il y a des vrais échanges avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'on partage vraiment une humanité, une authenticité, une fragilité et un amour, en fait, on peut utiliser le mot amour, quand l'amour circule entre les gens, ouais, tu te reconnectes. Alors oui, ça fait cucu, les petits oiseaux, la praline et tout ce qui va avec. Mais putain, si on n'est pas là pour ça, ça sert à rien qu'on soit là, quoi. Enfin.
Non, mais à fond. Mais à fond. Et honnêtement, enfin, moi, tu vois, je l'ai reçu même très récemment, enfin, pendant ma grève de la faim. Tu sais, quand, parfois, je devais me déplacer, j'avais ma valise et tout, et c'était trop lourd pour moi. Enfin, j'avais beaucoup mal à me déplacer avec ma valise alors qu'elle pesait pas si lourd que ça, mais j'étais juste très faible. Et dans le métro, il y avait plein de gens qui m'aidaient et j'en chialais à chaque fois.
Ah oui.
Vraiment, genre, j'étais là, j'étais tellement pleine de gratitude et de reconnaissance, tu vois, de dire waouh, il y a quelqu'un qui m'a vu en galère et là, cette personne, elle s'est arrêtée, tu vois. Ouais.
Genre,
vraiment, ça me touchait de ouf et je te rejoins à fond. Enfin, moi aussi, je vis pour des moments où je sens que malgré les différences, malgré les divergences que je peux avoir avec quelqu'un, il y a un moment où on se rencontre et avec authenticité et où on est dans notre vulnérabilité. Parce que souvent, tiens, encore une fois, on a cette espèce de discours qu'il ne faut pas se montrer dans sa vulnérabilité, il ne faut pas être faible et tout. Mais en fait, pour moi, c'est à cet endroit-là que naissent les relations authentiques, en fait, et sincères. Et quand je suis dans l'authenticité avec quelqu'un, mais ben ça me nourrit tellement, ça me met tellement dans ma joie, tu vois, et dans cette rencontre, tu vois, et c'est ça que j'ai envie de cultiver aussi au quotidien, enfin vraiment, et je vois vraiment pour l'expérimenter beaucoup parce que je me rends compte très souvent, de plus en plus on fait ce retour-là. Donc moi j'ai appris à être dans ma vulnérabilité. Et aujourd'hui, ça me fait moins peur, donc j'y vais plus facilement. Et quand tu montres l'exemple et quand tu te mets un peu à poil d'un coup, tu vois, il y a un petit moment de déstabilisation face à toi, que tu es en interaction avec une personne ou en groupe et tout. Et puis tout d'un coup, boum, il y en a plein d'autres qui se mettent à faire pareil parce que ça fait trop du bien.
C'est ça, ça fait effet boule de neige.
De ne pas être derrière son masque social, de pas être, de devoir tenir une posture de je ne sais quoi et tout machin. Et très souvent, à la fin, on vient me voir en me disant « c'est merci d'avoir fait ça parce que sinon, je ne suis pas sûre que j'aurais fait la même chose. » Et en fait, tout d'un coup, bah, tu rentres dans un truc beaucoup plus, beaucoup plus vrai. Et je pense qu'on a tous et toutes besoin de ça. Enfin, personne n'est intéressé par parler derrière un masque, un autre masque, et on a juste envie de ces moments-là parce que on est des animaux sociaux et que on cherche cette authenticité-là. Et j'ai l'impression que quand on réussit à toucher ça du doigt, cette qualité-là, tu vois, d'être, de présence, d'écoute, etc. On a envie de plus et on a envie que ça se diffuse. Et je suis assez intimement convaincue que quand tu es là-dedans, ça rayonne en fait et petit à petit ça se diffuse, que tu le veuilles ou non, juste par mimétisme. Tu sais, on peut parler des neurones miroirs et compagnie, mais en fait, ça fait quelque chose, quoi.
Ouais, c'est assez fou. Mais pour l'avoir vécu une fois de plus
dans
deux séjours, c'était incroyable. Et moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que par rapport au sujet qu'on a pu aborder tout au long de ce podcast, mais surtout au début, quand on parlait de la place de la femme, comment elle est traitée sur les réseaux sociaux, la femme objet, qu'on sexualise aussi beaucoup, qu'on infériorise par rapport à l'homme, quand on parle de société patriarcale, de tout ça, quand tu es entouré de gens sains, avec qui tu vis ce genre de moment, et que tu es capable d'aimer les gens qui sont autour de toi, qu'ils soient hommes ou femmes, et que tu es capable de recevoir cet amour aussi, sans qu'il y ait justement de sexualisation, de rapport de dominance, tu es dans un truc mais tellement planant. Enfin, ça
hyper
redonne,
pur, quoi.
Ça donne tellement foi en l'humanité. Tu dis, c'est aussi ça les humains. C'est pas que ce que je vois dans les infos, et avec des gens qui se tirent dessus, qui s'égorgent, qui tout le bordel. Ouais.
Puis là, ça fait plus cucu les petits oiseaux, la praline. Ça fait vraiment un peu le côté gourou. Mais en fait, c'est vrai que c'est ça, quoi.
C'est vraiment
des moments à vivre, quoi. Si vous avez l'occasion, venez les partager avec nous ou partageons-les ensemble ailleurs, j'en sais rien.
Ça ne fait pas gourou, mais c'est vrai que le prochain stage qu'on organise, ce sera en juillet. On se retrouve tous au bord d'une falaise à être pas. On se fait des câlins tout nus.
Et on fait un, deux, trois.
D'abord, on se fait des câlins tout nus et après, un, deux, trois. et on vit dans la paix éternelle.
Et ce sera hyper pur.
Le lien description est en bio. Non mais écoute, en tout cas, Camille, c'était super de partager ça avec toi. Une fois de plus, moi, c'est ce que j'aime aussi dans nos podcasts, c'est qu'on se laisse entraîner aussi là où va la discussion. Moi, je serais trop ravie qu'on refasse un podcast avec toi.
Non mais moi aussi.
Et pourquoi pas...
Mais moi aussi, il y a plein de trucs dont je voulais vous parler, je vais pas demander les sujets.
Donc, il y avait vraiment des sujets précis. Je ne sais pas, mais tu parlais d'un aliment miracle sur Instagram. Allez suivre Camille sur Instagram.
Ouais.
Camille, c'est Girl Go Green. Tu parlais de la spiruline, par exemple. Ouais.
Par contre, ce n'est pas bon. Hein.
C'est pas bon, mais c'est génial, cet aliment.
Tu en manges toute la journée, c'est dur. Hein. Bah,
alors, moi, je n'en mangerai pas toute la journée. Enfin, de toute façon, ce n'est pas conseillé. Il faut
en manger
3 grammes et 10 grammes.
Non,
tout.
Mais je veux dire par là, c'est-à-dire que quand tu l'avales, le problème, c'est que, je suis désolée de le dire, hein, mais il y a les rototos, et ton rototo, il a la spiruline, et du coup, Oula. Tu as l'impression d'en manger toute la journée. Ah non, mais c'est terrible, quoi.
Ah ouais, ah moi, j'ai pas ça.
Non, ah bah, il y a peut-être...
Parce qu'en fait, elle mélange la poudre de spiruline avec sa bière. C'est pour ça. Cela dit, ça existe. En Dordogne, il faut une bière à la spiruline. Je ne sais plus comment il s'appelle, je leur aurais fait de la
pub.
Elle
est délicieuse.
Ouais, c'était très bon.
Mais en vrai, c'est trop drôle que vous m'en parliez parce que justement, là, quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, j'ai reçu un message d'une nana qui a écrit un petit bouquin de recettes avec la spiruline. Alors, je viens de le recevoir, je n'ai pas encore testé. Mais du coup, je suis hyper curieuse de tester justement en recette parce que moi, je le mets vraiment, je ne me prends pas trop la tête, tu vois. Mais du coup, je vais tester ça et je vous dirai. Et après, je pense vraiment pour le coup que la qualité de ta spiruline joue beaucoup.
Oui, mais on a mangé la même, c'est quand je vivais chez toi, donc on a mangé la même.
Normalement, c'était de la spiruline bio, vraiment le top du top de chez Spiruline Magasin. Bon, c'est à base d'algues, voilà pour ceux qui se posent des questions, mais de toute façon, on ne va pas parler de ça maintenant.
Non, on arrête.
On fera une spéciale où on parlera justement...
Alimentation.
Ouais, on pourra passer plusieurs thèmes comme ça. En tout cas, si toi, ça te va, parce que...
À fond.
Parce que je sais que tu es aussi super occupé, contrairement à nous qui avons...
Sinon, on n'a pas de sous, Camille.
Pas mal de temps.
Il faut que tu dises, c'est du bénévolat.
Moi, j'adore discuter avec vous, mais en fait, vous m'avez tellement... C'est aussi des, je sais pas comment dire, c'est du, c'est une énergie, c'est don contre don, quoi. Tu vois, genre vous êtes venu me porter à des moments quand je me lançais sur les réseaux et vous étiez là en mode ouais c'est trop cool et tout, et j'avais ce soutien complètement inattendu, tu vois, et qui était trop bienvenu. Et donc du coup, genre là, je vous vois prendre aussi, enfin faire des choix qui sont radicaux et importants dans votre vie. J'ai grave envie de soutenir ça parce qu'en plus je suis convaincue que vous allez dans la bonne direction et du coup je suis émerveillée de voir aussi ces parcours de vie qui changent et du coup si je peux vraiment contribuer et passer un bon moment comme je viens de le passer, c'est tout bénef et je suis évidemment trop contente.
Ouais, c'est super gentil.
Ouais, ça fait du bien d'entendre ça parce que je vais te dire, on a des moments difficiles qui est en dépression.
Allez, on va se faire une petite spiruline. Vous savez quoi, on met que la bière cette fois.
Allez. Merci. Bon, Camille, un énorme merci.
On se dit à très bientôt alors.
Et on se dit à demain.
Ouais, franchement, quand vous voulez. Non, mais vraiment, quand vous voulez, Greg Anso, c'est trop un plaisir de discuter avec vous. Et puis, moi, l'étape d'après, c'est qu'on se rencontre en vrai.
Ah, bah ouais, carrément.
Ah ouais, là, il n'y a plus le choix là.
Faut qu'on vienne avec notre petit matériel. T'es où, en Normandie, c'est ça?
Non, dans la Sarthe, toujours.
C'est juste avant, genre, c'est les Pays de la Loire, exactement, donc la Mayenne. Mais honnêtement, vous êtes passé où?
Nous, on est à côté de Bordeaux, entre Bordeaux et Libourne. On est dans l'entre-deux-mers, exactement.
La Gironde.
Je vois bien.
En train, c'est gare de Libourne et sinon gare de Bordeaux. Voilà.
En plus, j'ai deux chambres, donc je peux t'héberger aisément, Camille. Hein.
Bah, franchement, à l'occasion, genre, je sais que j'ai la personne avec qui j'ai construit mon van qui est dans les Landes. Mais donc, du coup, je passe régulièrement vers Bordeaux. Enfin, là, j'ai pas de trajet prévu, mais.
Ouais, mais ça peut être l'occasion, hein, carrément.
Ouais, franchement, à l'occasion, avec grand plaisir. Quoi.
C'est Julie que tu vas voir?
Ouais, exactement.
Sortez
tout ouvert. C'est le mec de Julie avec qui j'ai fait mon van.
Bah, Julie Bernier.
Oui, on l'a vu dans le podcast, d'ailleurs, en saison 1, souvenez-vous.
Ouais. Ah, c'est énorme. OK. Ouais. Et bah, écoutez, bah, voilà. Et en fait, comme Il m'assure aussi le service après-vente. Parce que dès que j'ai les contrôles techniques, un truc qui pète et tout, j'ai fait ouhou, voilà. Du coup, je reviens régulièrement, en fait. Donc, la prochaine fois, je m'arrêterai par chez vous, quoi.
Avec plaisir, Camille. Carrément. Merci en tout cas pour ce très bon moment. On te fait des bisous. Puis, du coup, on te dit
merci à vous.
Tout
merci
bientôt.
À vous deux. Et franchement, si vous avez un coup de mou, n'hésitez pas même à me parler en off. Et moi, je vous reboosterai parce que je suis passée par là aussi. Mais au final, c'est que du bonheur.
Bah, c'est trop gentil.
T'es trop mignonne.
Du coup, on va rester avec toi en ligne pour la séance de psychothérapie tout de suite. Allez, c'est fini pour la version officielle. On coupe et puis on entame la séance avec Camille. Allez, bisous, bisous.
Allez, on t'embrasse fort, Camille. Merci
bisous,
beaucoup. Bisous.
Salut. Ciao.
Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir.
Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains.
Merci par avance.
Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci.
Et bien à vous.
À vous également.
Au revoir.
Cordialement.
Ah oui, j'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.